C'est les marchés sur votre Minitel 3615 France Inter, rubrique bourse, 35 centimes d'euros la minute. Ou sur votre téléphone au 0892 68 10 33, 34 centimes d'euros la minute.
Les courses à Saint-Cloud avec tout d'abord la combinaison gagnante du Quintet Plus, 12, 7, 3, 11 et 5. Quintet couru dans la deuxième course, dans la première, premier l'As, 2 euros et 1 10. Deuxième, le 6, 1, 20 et troisième, le 3, 1, 10. Vous écoutez France Inter, il est 14h03, c'est l'heure de 2000 ans d'histoire avec Patrice Gélinet. Bonjour.
Bonjour Claire et bonjour à tous. Aujourd'hui, une des écoles les plus célèbres du bouddhisme, le Zen.
Le soleil du Bouddha éclaire l'univers. Si vous, les vieux maîtres du Zen, ne l'aviez pas transmis depuis la Chine, le Japon tout entier serait demeuré obscur et aveugle. Daito Kōushi, 14e siècle.
D'histoire. Être zen, c'est bien connu, c'est être calme, serein et décontracté. Mais combien parmi ceux qui en parlent connaissent le sens et l'histoire de ce mot qui désigne moins une pratique religieuse qu'une philosophie? Elle est née il y a 25 siècles, inventée par un prince du nord-est de l'Inde. Il s'appelait Siddhartha et avait décidé de renoncer au luxe et à tous les privilèges de sa caste. Un jour, alors qu'il était sous un arbre, assis dans la position du lotus, il décida d'y rester, de repousser toutes les tentations terrestres que lui proposaient les démons, pour atteindre au bout de 49 jours ce que la tradition bouddhiste appelle l'éveil.
Siddhartha avait gagné la bataille contre une armée de démons. Il était parvenu au grand calme qui précède le détachement des émotions. Il était parvenu au-delà de lui-même. Il était au-delà de la joie ou de la douleur. Il avait dépassé sa propre raison. Il voyait bien au-delà de l'univers. Siddhartha avait vu l'ultime réalité, la réalité de toutes choses. Il avait compris que chaque mouvement de l'univers est un effet provoqué par une cause. Alors, Siddhartha fut appelé le Bouddha, l'éveillé.
Jacques Brosse, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes moine bouddhiste, enseignant du zen et auteur d'un très beau livre qui vient de sortir chez Albin Michel, l'univers du zen. Le zen, donc, vous le rappelez, qui est une des écoles du bouddhisme. Le bouddhisme qui n'est pas à proprement parler une religion, je le disais à l'instant. Hein, je crois que Bouddha lui-même refusait qu'on le considère comme un dieu. Comment est-ce qu'on pourrait le définir, justement, le bouddhisme?
Ben, comme un éveillé qui apprend l'éveil aux autres, qui communique la possibilité de l'éveil. Pour le dépassement de ce qu'on appelle la souffrance, dukkha, que la souffrance qui résulte de la condition humaine elle-même, qui est, comme vous le savez, imparfaite, et qui finit généralement, pour les gens, plutôt mal, par ce qu'on appelle la maladie, la vieillesse et la mort. C'est pas un échappatoire à la maladie, à la vieillesse et à la mort, c'est une acceptation désintéressée de ceci, qui est un processus de transformation. Pour nous, la mort n'est pas une fin. Il commence pour autre chose.
Parce que justement, moi j'ai lu en vous lisant, justement, il y a ce qu'on appelle les quatre vérités du bouddhisme, dont les trois premières sont celles-ci. Hein. Le monde est plein de souffrance, hein, c'est ce que vous disiez. La souffrance vient du désir et au fond, le salut ne vient que si on renonce au désir. C'est ça, au fond.
Oui, j'aimerais mieux ne pas employer le mot de désir parce qu'il y a des désirs qui sont tout à fait nobles. J'appellerais ça plutôt la convoitise. La convoitise qui est infinie, interminable. La convoitise de la société de surconsommation que nous vivons actuellement, par exemple. S'encombrer d'un tas de choses et ne pas comprendre ses vrais besoins.
Alors, le bouddhisme s'est répandu dans l'ensemble de l'Asie au début, après la mort de Bouddha en 543 avant notre ère. Il a conquis toute l'Inde, il est allé à Ceylan dans le sud-est asiatique, il atteint, je crois, la Chine au 2e siècle après Jésus-Christ, le Japon au 6e siècle, le Tibet au 7e siècle, et il a donné naissance à des quantités d'écoles, en réalité, dont le zen. En quoi le zen se distingue-t-il des autres écoles bouddhistes?
Mais il faut recourir à l'étymologie. Zen vient du chinois Chan. Et le chinois Chan est une copie du mot sanskrit dhyana. dhyana, c'est la méditation proprement dite. Donc c'est une école qui privilégie la méditation avant toute autre chose. Il y a de la méditation dans toutes les écoles, mais il y a beaucoup de cérémonies, des rituels, un tas de choses, et même beaucoup de verbosité. Nous sommes plutôt des silencieux et qui pratiquons la méditation.
Et la méditation dans la position du Bouddha au pied de son arbre, dans la position du lotus qui est celle de tous les adeptes du zen, aussi bien au Japon ou en Chine, il y a plus de 1000 ans, qu'en France aujourd'hui, un reportage de Michel Randon à Paris, le 20 juillet 1970.
Dans la pièce, des personnes de tous âges et de toutes conditions. Assises, en position de lotus, les jambes repliées, elles font zazen. C'est ici que le maître Taizen Deshimaru enseigne.
Maître Deshimaru, nous sommes ici dans votre dojo. Qu'est-ce que le zazen?
Zazen is a practice of meditation by true method, true. Za, Japanese zazen, za is sitting down.
Zen, le zazen est la pratique de la méditation, c'est la méthode, la vraie méthode, la méthode la plus élevée. La signification de zazen en japonais est za, assis, être assis, et zen, essence de Bouddha. Aussi, si vous voulez vraiment comprendre le zen, vous devez absolument pratiquer zazen. Lire des livres n'est pas suffisant.
C'était Zen Deshimaru, qui est un japonais très important. Je crois que c'est lui qui a introduit le zen en Europe. Jacques Brosse, vous l'avez connu d'ailleurs.
Ça a été mon maître jusqu'à sa mort, pendant 8 ans.
Alors on l'a entendu dire, pour comprendre le zen, il faut faire zazen, c'est-à-dire se mettre dans la position du lotus.
Absolument, la position du lotus avec le dos très droit et une bonne respiration qui est indispensable. C'est une respiration lente, paisible et profonde. C'est seulement dans ces conditions-là qui aboutissent à silence intérieur, un très grand calme, qu'on peut dire qu'on est en méditation, vraiment.
Et une méditation, je crois, sans objet. Bon, je ne sais pas à quoi pense-t-on, justement, quand on médite. Moi, je ne pratique pas le zazen.
Mais Deshimaru disait, je crois que c'est tout à fait la sagesse, il faut laisser passer les pensées, ne pas songer ni à les arrêter, ni à s'hypnotiser par les pensées qui vous passent par la tête. Elles passent, c'est tout. Donc, il ne faut pas non plus se restreindre, se contraindre exagérément, il faut se concentrer sur la posture et la respiration elle-même.
La respiration, c'est le ki, hein, c'est ça?
Oui.
Et que l'on place dans l'abdomen.
En dessous.
Le hara, c'est ça aussi?
Oui, c'est ça. C'est le hara japonais.
D'où la formule harakiri, qui veut dire?
Qui veut dire, se couper le souffle, si je puis dire. Hein, on ne dit pas en japonais, c'est très mal élevé de dire harakiri. On dit seppuku, c'est le mot noble.
Alors, le zen est essentiellement japonais, Jacques Brosse, mais il n'est pas né au Japon, donc vous le disiez, il est né en Chine, je crois.
Ah, il est né en Chine, il est même né en Inde, puisque le premier maître du Chan chinois, qui est arrivé à Canton,
le zen japonais, hein, c'est l'équivalent, oui.
Oui, c'est le même mot. Le maître qui a introduit le Chan en Chine venait de l'Inde, c'était le fils, en principe, d'un roi de Kanchipuram. Et lui-même était un patriarche déjà dans le Chan, dans le Dhyana à l'époque. Parce que à partir du Bouddha, il y a une succession de patriarches, lui-même était le 29e patriarche indien. Donc en principe, tout remonte au Bouddha. Exactement, à son premier disciple, Mahakashyapa, qui avait compris le message de la fleur. Le message de la fleur, c'est quand le Bouddha ne dit rien, il montre une fleur à ses disciples. Naturellement, les disciples sont très déroutés, ne comprennent pas, sauf il y en a un qui sourit, qui répond au sourire du Bouddha. Et le Bouddha lui dit, ça y est, toi tu as compris. Désormais, c'est toi qui vas me succéder. Parce que c'est ce sourire sans un mot qui est vraiment l'essence de l'éveil.
Alors, tout ça a donné plus tard le Chan chinois. Je propose d'écouter justement la revue de textes de Stéphanie Duncan, des textes chinois du 6e et 7e siècle.
Oui, l'histoire du Chan, donc l'ancêtre chinois du Zen, commence avec le débarquement à Canton d'un moine indien barbu, Bodhidharma, le 21 septembre 527. Il était le 7e fils d'un grand roi brahman de l'Inde du Sud, dit la légende. Son intelligence vive pénétrait toutes choses. Sa vertu était exemplaire. Comme il s'affligeait de la décadence de l'enseignement l'enseignement du Bouddha dans les contrées lointaines, il décida de franchir monts et mers pour venir prêcher dans les régions de la Han et de la Wei, c'est-à-dire la Chine. À peine arrivé, Bodhidharma se rend à Nankin auprès de l'empereur Wuti, un bouddhiste fervent, et celui-ci lui demande « Depuis le début de mon règne, je n'ai cessé de construire des temples et d'aider les moines. Quel est mon mérite ?» La réponse de Bodhidharma est déconcertante. « Aucun mérite, dit-il. Et pourquoi donc ?» demande l'empereur. « Ce ne sont là que des actions inférieures qui portent encore la marque du monde. Une action vraiment méritoire, dit Bodhidharma, est remplie de pure sagesse, parfaite et mystérieuse, et sa nature est hors de portée de l'intelligence humaine. » C'est ainsi donc que naît en Chine le Chan, l'ancêtre du Zen. Au VIe siècle, un long poème, le Xin Xin Ming, écrit probablement par le deuxième successeur de Bodhidharma, est un des textes essentiels du Chan. Il montre bien l'importance justement accordée à l'intuition, au laisser-faire, plus qu'à la volonté ou à l'intellect. La voie parfaite n'est en rien difficile, pour peu que l'on évite de choisir. Quand il n'y a plus ni amour, ni haine, elle se révèle dans toute sa clarté. Si vous désirez qu'elle se manifeste, ne soyez ni pour, ni contre. Le conflit entre le pour et le contre, voilà la maladie de l'esprit. Si nous abandonnons toute parole, toute pensée, il n'est de lieu où nous ne puissions aller. Un enseignement qui est confirmé par Tao Xin, qui au 7e siècle fonde le premier monastère Chan. Abstenez-vous d'expédients tels qu'évoquait le Bouddha, dit-il. Saisir l'esprit ou l'examiner, laissez-vous simplement aller. Lorsque l'eau est troublée, la perle est cachée. Lorsque l'eau redevient claire, elle apparaît. Alors, cette philosophie va inspirer beaucoup de poètes et de peintres chinois, comme Han Chan, qui vécut au 7e siècle et dont les poèmes de la montagne froide sont restés longtemps populaires en Chine. Depuis combien de temps suis-je venu m'établir sur le mont froid ? Des années et des années. Libre, j'erre par les forêts et les torrents, m'attardant à contempler les choses telles qu'elles sont. Les nuées blanches s'assemblent et ondoient, l'herbe fine est ma couche, le ciel bleu ma couverture, d'une pierre je fais mon oreiller, je laisse la terre et le ciel aller leur cours.
Un commentaire sur ces textes, Jacques Broche, qui ne sont pas forcément accessibles aux profanes. D'abord, il y a une chose évidente, on l'a entendu au début, c'est au fond le Chan, c'est-à-dire l'ancêtre du Zen, c'est une réaction contre la décadence du bouddhisme, parce que le bouddhisme existait avant le Zen.
Oui, seulement en Chine. Il y avait beaucoup de discours et très peu de pratiques. On est arrivé à faire une philosophie, à toutes choses comme ça, très compliquées, avec des discours qui étaient certainement très vains là-dessus. Et tout le temps, on ramenait les gens à cette pratique du zen, c'est-à-dire la posture elle-même. Mais en Chine, on l'a compris assez vite parce que il y avait déjà dans la philosophie chinoise cette expression de Wu Wei, qui est le non-agir, de même que Wu Xin, c'est le non-sentir ou le non-penser. Mais Wu Wei, ça ne veut pas du tout dire qu'il ne faut rien faire. Ça veut dire qu'il faut faire en étant parfaitement désintéressé, sans but précis. Il faut agir, c'est comme ça. Pour l'ordre du monde, l'ordre des choses, et pas pour le profit personnel. Puis après, il n'y a plus qu'à laisser voir ce qui va arriver. C'est la non-intervention, si vous voulez, en somme, le Zen. La non-intervention, simplement, soyez constamment dans le Dharma, c'est-à-dire l'ordre de l'univers, ce qu'on appelle le Tao chinois.
Et le Zen, donc, qui arrive au Japon, Jacques Brosse, bien après le bouddhisme était déjà présent, c'est une religion officielle depuis le 6e siècle, là il arrive au 12e, 13e siècle, je crois, pourquoi est-ce qu'il a tant de succès tout de suite au Japon,
il attend là où il va se développer. Parce que, il faut dire que ça a été le pouvoir qu'il a adopté. Les shoguns de Kamakura, qui remplaçaient l'empereur défaillant, qui étaient quand même des chefs de guerre au départ, ont compris que apprendre aux samouraïs cette zazen, cette concentration, cette méditation, les changerait. Ils ne tueraient plus pour tuer, ce ne seraient plus des brutes. Mais simplement, ils tueraient parce que dans un combat loyal. Et finalement, sans souci de détruire l'adversaire.
Pour adoucir les mœurs.
Oui, exactement. Effectivement, il y a eu toute une culture qui s'est axée sur le zen au départ, qui a donné ce qu'on appelle les arts martiaux actuellement. Mais l'école à laquelle j'appartiens n'est pas tout à fait la même. C'est-à-dire qu'elle est beaucoup plus, disons, provinciale, beaucoup moins près du pouvoir et beaucoup plus fondée sur la méditation silencieuse et la paix du cœur, en définitive.
On y reviendra, Jacques Brosse, mais en tout cas, le zen s'impose à partir du XIIIe siècle dans tout le Japon. Il règle la vie quotidienne des Japonais jusque dans ce qu'on appelle la cérémonie du thé et ce que le zen appelle la voie ou le chemin du thé.
Le chemin est pour moi seul, pas pour toi. Mais pourquoi ? C'est le chemin de Rikyu. Chaque maître de thé a le sien propre. Bon ou mauvais, Rikyu a choisi ce chemin, sombre et froid, comme l'est la voie du thé en ces temps d'obscurantisme. Où ce chemin conduit-il, maître ? À l'éternité. France Inter, 2000 ans d'histoire, aujourd'hui le zen.
Et c'était l'extrait d'un très beau film de Kai Kumai, La mort d'un maître de thé, en l'occurrence Rikyu. C'est quoi la voix du thé, le shadow? Tous les grands maîtres, dites-vous Jacques Brosse dans votre livre, tous les grands maîtres du thé étaient en même temps des maîtres ou des adeptes du zen. Quel rapport entre le thé et le zen?
Il y a un rapport légendaire, c'est Bodhidharma lui-même, l'introducteur donc depuis l'Inde, du dhyana, c'est-à-dire de la méditation en Chine, il passerait dans la légende pour avoir arraché ses paupières pour ne pas dormir et les mettre à l'eau bouillante, ça donnait les feuilles de thé. Bon, ce qui voulait dire qu'il y avait un rapport très étroit entre la méditation et le thé lui-même, qui est pas violent, mais qui vous empêche de somnoler pendant la méditation. Donc il y a toujours eu ce très grand respect réciproque entre l'art du thé et le zen. Mais l'art du thé, évidemment, c'est aussi une cérémonie très très curieuse. D'ailleurs, il faut l'avoir vécu. C'est d'abord du thé vert. Hein. On a l'impression, même s'il est tellement vert, qu'on a l'impression qu'il y a une grenouille qui va sauter de la tasse. Mais qui est préparé d'une façon très rituelle, ritualisée, avec un très grand calme, beaucoup de soucis, de silence aussi. Donc c'est tout un apprentissage que l'art du thé. Comme d'ailleurs tous ces arts issus du zen.
Oui, vous parlez de la voix des fleurs, rappelle le cadeau, oui. et vous dites que l'art des bouquets japonais, hein, qui est très connu, est inspiré par le zen.
Mais bien entendu, il découle directement. D'ailleurs, Rikyu, qui était maître du thé, était aussi maître dans l'art des fleurs. Tout ça se communiquait, hein, de même que la calligraphie chinoise puis japonaise est un art bouddhiste, enfin un art, disons, du zen, de la tradition.
Alors il y a également, il y a la voix de la calligraphie, il y a la voix des fleurs, la voix du thé, il y a également, dites-vous, la voix des guerriers, hein, des samouraïs, le bushido. Quel rapport entre le zen et l'art des combats? Tous les samouraïs, dites-vous, pratiquaient le zen?
À peu près tous, mais généralement, il y en avait assez de détruire, de tuer quand même, parce que c'était quand même leur propos de guerrier, de tuer. Et ils devenaient moines, très souvent. Beaucoup d'entre eux devenaient moines à la fin de leur vie. La fin de la carrière, c'est-à-dire à 35 ans, 40 ans, ce qui pour nous est la jeunesse, mais pour eux c'était fini. Il avait fini avec les batailles. Donc ils venaient très souvent des moines zen, c'est vrai. Mais de toute façon, ils n'agissaient plus comme guerriers de la même manière.
Ça les aidait, dites-vous. Hein. Ça permet, le zen permet d'entretenir la concentration, permet la maîtrise de soi, le détachement aussi, qui permet de dépasser
noblesse,
la peur de la mort.
Exactement.
Hein, oui, on se battait mieux, au fond, quand on était zen.
Exactement, oui.
Et alors, ce qu'il y a de curieux aussi, c'est que vous rappelez que toutes les techniques de combat, qu'elles soient anciennes, comme par exemple le sumo, ou qu'elle soit plus récente, comme le judo, comme le karaté ou l'aïkido, elle procède aussi du zen.
Oui, oui, mais d'ailleurs actuellement, la plupart, quand on arrive à des degrés supérieurs, les ceintures noires, etc., on est obligé de faire de la méditation zen. C'est une obligation.
Mais c'est violent pourtant.
Non, pas tous. Écoutez, moi le seul que je connaisse bien, c'est le kyudo, c'est le tir à l'arc. Le tir à l'arc n'est pas du tout violent, absolument pas. D'abord, on ne tire jamais à l'arc avant des années et des années de préparation. On ne vise pas la cible. Alors, c'est pas de la violence, c'est simplement d'avoir un esprit suffisamment concentré, une posture suffisamment juste pour que la flèche aille toute seule au but. C'est même pas vous qui tirez. C'est le wuwei, c'est le non-agir.
Alors le zen inspire aussi quelques écrivains. On écoute justement un des écrivains japonais très célèbres, adepte du zen, Mishima, au micro de Michel Randon en 1970.
Ma famille appartenait à une secte zen. Je ne suis pas pratiquant, mais je suis inconsciemment influencé par le bouddhisme zen. Le zen ne croit pas au moi. Moi, je m'exprime par les mots, c'est mon métier. Si je suis influencé par le zen, c'est qu'en fin de compte, je ne crois pas en l'authenticité des mots.
C'était Mishima en 1910. Le zen ne croit pas aux mots. Ça veut dire quoi, ça?
Ça veut dire qu'il faut passer par-delà les mots. Quand un maître du zen enseigne, il enseigne bien sûr, mais il demande à ses disciples de laisser passer les mots, hein, et de retenir seulement ce qu'il a voulu dire, ce qui est au fond de son discours, et rien de plus. Et que, en définitive, c'est expérimenter ce qui est passé à travers les mots, mais seulement à travers. Les mots ne sont qu'un véhicule, rien de plus.
C'est quoi aujourd'hui? Vous vous rappelez que le zen est encore très présent au Japon. Il n'a pratiquement jamais été persécuté. Il a toujours été encouragé par les empereurs au XIXe siècle.
Il y a eu des moments assez durs, si, parce que à cause du Shinto, qui est la religion fondamentale japonaise, la religion nationale, il y a eu quelques troubles quand même.
En tout cas, il y a beaucoup de monastères. C'est quoi la vie quotidienne d'un moine zen au Japon?
C'est de se lever généralement très tôt. Nous commençons tous très tôt. Même dans mon groupe, on commence à 5h30, ce qui pour les Français paraît absolument... Mais l'important, c'est qu'on commence généralement au lever du soleil et on termine au coucher du soleil. C'est un moment extrêmement favorable. Vous le savez, parce que quand on regarde un lever ou un coucher de soleil, on est quand même impressionné par les visions cosmiques qu'on peut en avoir, hein, qui est normal. Et puis, magnétiquement, c'est très important. Donc, nous vivons entre le lever et le coucher du soleil.
Et on passe beaucoup de temps à la méditation, c'est ça le zen en fait.
On peut passer 8 heures à 9 heures sur son coussin, oui.
Alors le zen est resté spécifiquement japonais pendant plusieurs siècles. Il s'est répandu dans le monde entier, ou finalement assez tardivement, Jacques Brosse, à la fin des années 60. On écoute une Française dans un temple zen de Plassac en Dordogne. Au micro de Anis Clément, le 8 septembre 2000, elle parle de la découverte qui a été pour elle la méditation assise.
La chose qui m'a frappée là, c'est l'assise silencieuse, qui a été un choc. Par ce silence, j'ai vu le chaos dans lequel tout le monde se débat. On dramatise tout, on amplifie tout. Cette assise silencieuse vous fait voir tout votre cinéma. Soit on prend la fuite, on ne supporte pas. Alors pourquoi j'ai continué? Ça, c'est le karma. Le destin, diront d'autres, l'appel de Dieu, diront les croyants. Moi, je ne suis pas croyante, alors je dirais, je ne sais pas. Et j'ai continué, et alors tombe, il y a un nettoyage qui se fait.
À quoi correspond, elle parle de nettoyage, à quoi correspond Jacques Brosse cet engouement pour le zen en Occident, que ce soit aux États-Unis ou en Europe, dans des pays qui sont à mille lieues de la culture asiatique où s'est développé le zen?
Je pense que c'est un besoin, comme l'a dit très bien justement cette dame, de clarification personnelle, de voir le chaos qu'il y a en vous. D'abord, il est évident que quand on est dans la posture du zen, dans le calme parfait, dans le silence parfait, on voit parfaitement ça. En effet, elle parlait d'un cinéma intérieur. Nous nous faisons constamment du cinéma. Et ce cinéma nous empêche de percevoir la réalité qui est derrière le cinéma, derrière le voile, le cinéma qu'on se fait. Donc là, on commence à y voir clair. L'éveil, si vous voulez, pour moi, je pourrais le comparer à ce qu'est l'opération des cataractes. Vous avez un voile, on est obligé de vous le retirer. Maintenant, c'est pas grave. Avant, c'était une opération importante. Et brusquement, vous voyez clair. J'ai un frère aîné qui a été opéré de cataracte à 91 ans. C'est vous dire qu'il était... Mais il m'a dit, je commence à voir comme je voyais à 12 ans. Bon, c'est pour vous dire. Ben, c'est ça. Et finalement, quand je mentionne cette enfance, c'est qu'on retrouve la clarté de vue du petit enfant. L'émerveillement du petit enfant devant le monde. L'enfant est émerveillé, naturellement. C'est l'éducation qui l'empêche d'être émerveillé. On lui a interdit ce premier éveil qu'il a, normalement. Alors, de retrouver cette pureté du regard, c'est très important. Et alors là, on voit effectivement tous les conditionnements par lesquels nous sommes passés, par lesquels nous sommes les victimes de nos conditionnements. Et on peut, à ce moment-là, réagir.
Jacques Brosse, vous-même vous êtes moine zen, je crois même que vous êtes maître zen, et en même temps vous allez à la messe. Est-ce que c'est pas incompatible?
Mais non, certainement pas, parce que le Dalai Lama, pour citer cette référence illustre, le dit lui-même, ne coupez pas vos racines. Si elles sont déjà coupées, bien entendu, c'est pas la peine. Mais si elles existent encore, votre racine qui est quand même, disons, le judéo-christianisme, pour employer une expression un peu trop historique, hein, j'ai aucune raison de couper ça. Seulement, effectivement, la vue que j'ai du catholicisme que j'ai pratiqué depuis l'enfance n'est plus la même maintenant. Elle n'est plus institutionnalisée. Elle évite certains problèmes. Par exemple, le problème de Dieu, dans le bouddhisme, qui n'est pas un athéiste, contrairement à ce qu'on dit, la croyance, c'est une question personnelle. Vous êtes libre de croire ce que vous voulez, on ne vous impose rien. Donc, si vous voulez croire en un Dieu personnel, c'est votre affaire, ou dans un Dieu qui soit la nature elle-même et Dieu, c'est une espèce de panthéisme peut-être, oui, c'est ça, la nature est divine en soi. Vous voyez, on ne fait plus de cloison, de cloisonnement. C'est ce qu'on appelle le non-dualisme. Nous parlons du bien et du mal. La guerre actuelle, la guerre de l'Irak, c'était le bien contre le mal, soi-disant, d'après M. Bush lui-même. Bon, c'est ridicule. Pourquoi dire que les autres sont le mal et soi-même le bien? C'est absurde comme position. C'est le conflit permanent. Alors, il y a le conflit intérieur aussi. Nous nous battons à l'intérieur de nous-mêmes. Donc, nous projetons notre combat vers l'extérieur et nous décelons un ennemi. Il faut un ennemi pour qu'il y ait des amis. C'est grotesque, cette position.
Le zen, c'est la tolérance, en fait.
C'est une espèce de tolérance et surtout de compréhension. Nous comprenons autrui aussi bien que nous-mêmes parce que notre moi n'existe plus. La barrière du moi a été levée.
Merci Jacques Brosse. Je rappelle donc le titre de votre livre pour en savoir plus. Hein, il est magnifiquement illustré, il est très complet. L'univers du zen, donc histoire et spiritualité et civilisation. Un très beau livre qui vient d'être publié chez Albin Michel. Vous êtes également l'auteur de Satori, 10 ans d'expérience avec un maître zen, ainsi que deux autres livres, Le zen et l'Occident, publié chez Albin Michel, et Retour à l'origine, publié dans la collection Terre humaine chez Plomb. À lire également Lexique des spiritualités de Serge Cagnaloli, publié chez Oxus. Vous avez pu entendre des extraits des films suivants, La mort d'un maître de thé de Kei Kumai et Little Buddha de Bertolucci, tous deux disponibles en cassette vidéo. Vous pouvez, vous le savez, retrouver tous ces renseignements en contactant le service des relations avec les auditeurs au 0892 68 10 33, 34 centimes d'euros la minute, ou consulter le site de notre émission sur franceinter.com. C'était 2000 ans d'histoire, la technique Michel Thomas et Étienne Michka, documentation et archivinin Virginie Bloch-Léné, Claire Tessert et Sandra Escamez, revue de texte Stéphanie Duncan, réalisation de Anne Kobilac.
Une émission de Patrice Gélinet.
Demain, dans 2000 ans d'histoire, le plus grand empire colonial de l'histoire, l'Empire britannique, mais tout de suite à 14h30 sur France Inter 3.